Camille Manière, bonjour. La revue de presse internationale, difficile d'y échapper ce matin dans les médias du monde entier. C'est le premier débat télévisé américain entre Donald Trump et Joe Biden. Et c'est lui qui a retenu votre attention, Camille.
Oui, parce qu'en ouvrant les sites web des journaux américains tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver plongé dans une cour d'école. C'est pas très original comme comparaison, mais franchement, au terme de 90 minutes de débat entre les deux aspirants à la Maison-Blanche, voilà ce que le New York Times en retenait comme grand titre de une. Joe Biden a traité Donald Trump de clown. Attention, hein, c'est pas lui qui a commencé, Biden, le vilain garçon agressif, celui qui a passé la soirée à parler par-dessus son camarade, à l'interrompre, à le harceler en l'intimidant de ses prises de parole qui ne respectaient pas les règles établies. C'est bien lui, Donald Trump, la terreur des bacs à sable et des bureaux de vote. C'est lui, selon le Los Angeles Times, qui a donné à ce débat son caractère foncièrement chaotique, rugueux, laid, acide, dominé par les attaques personnelles. Bref, un spectacle scabreux qui, c'est bien le pire, risque fort de ne rien changer au rapport de force entre les deux prétendants. Trump, confirme le quotidien californien, a été finalement égal à l'image que l'on connaît trop bien de lui. D'ailleurs, pour Philippe Bump du Washington Post, sa stratégie consistait apparemment à tweeter à voix haute pendant 90 minutes. Trump a sans doute réjoui et conforté sa base électorale, mais il n'a pas élargi cette base.
Voilà qui fait dire à certains, Camille, que le grand gagnant de ce débat, c'est le biais de confirmation.
Oui, la formule est de Hugh Hewitt, ce présentateur radio, commentateur politique bien connu aux États-Unis, qui évoque donc ce phénomène des réseaux sociaux qui fait référence à cette tendance que l'on a à se contenter, à se conforter, quitte à s'y enfermer dans des opinions qui sont en phase avec les nôtres. Du coup, les indécis, dont on sait qu'ils vont être décisifs dans cette présidentielle, ne devraient pas l'être beaucoup moins indécis après avoir subi ce premier débat foncièrement sale, selon Trip Gabriel du New York Times, le journaliste politique, qui remarque tout de même, on en revient à notre clown du début, que contrairement à toutes les attentes, c'est Joe Biden qui a le plus fait usage d'insultes dans ce débat. Le démocrate, que Trump a surnommé Sleepy Joe, vous savez, Joe l'endormi, a su hausser le ton sans toutefois sortir de ses gonds, même quand il a suggéré à Donald Trump de la fermer, ou quand il l'a traité de menteur, de pire président de l'histoire, de raciste et de xénophobe, ou encore de caniche de Vladimir Poutine. Se montrer offensif sans être agressif, c'était le registre dans lequel Joe Biden était attendu pour faire oublier justement Sleepy Joe. Mais en fait, selon le Los Angeles Times, sa principale victoire aux démocrates, même s'il a souvent bafouillé, s'il n'a pas fini beaucoup de phrases dans ce débat, c'est d'avoir réussi à éviter un de ces moments de relâchement où la question de son âge et de ses capacités intellectuelles aurait été posée.
Cette maigre satisfaction pour le camp démocrate est tout de même loin de racheter le débat.
Et un débat que le site Politico décrit comme une catastrophe ferroviaire, une collision qui a trop vite fini hors des rails. Il y avait du vice dans ce triste spectacle, déplore la chaîne CNBC. Et pour preuve, tous les articles publiés depuis la fin du débat s'attardent, vous l'avez compris, sur sa forme calamiteuse. Bien peu s'intéresse à ce qui s'est dit sur les sujets de fond, les enjeux de cette présidentielle, le Covid, la couverture santé, le racisme et les violences policières, la politique étrangère ou encore l'emploi. Tout ça a été parasité par les invectives permanentes. Et ça inspire cette conclusion au politologue Frank Luntz, interrogé par Bloomberg. Le grand perdant de ce premier débat, on le connaît, c'est l'électeur américain.
Autre chose, dans la presse tunisienne cette fois, le président en personne relance le débat sur la peine de mort.
Oui, une peine de mort qui, il faut bien le préciser, figure dans l'arsenal pénal tunisien, mais elle n'est plus appliquée depuis près de 30 ans avec un moratoire qui avait été imposé du temps de Ben Ali. Mais là, donc, depuis lundi, le sujet revient au centre des discussions depuis, comme nous l'explique l'hebdomadaire Réalité, que Kaïs Saïed, le président élu il y a un an, s'est dit favorable à ce que l'on exécute à nouveau des condamnés en Tunisie. Il l'a dit dans un contexte bien particulier, précise l'hebdomadaire. Il réagissait, comme des millions de Tunisiens depuis 10 jours, à l'émotion suscité par un sordide fait divers, la mort d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé, torturé, violé, égorgé dans un fossé de la banlieue de Tunis. Son assassin présumé étant récidiviste, il mérite la peine de mort, a donc clamé lundi Kaïs Saïed, du haut de sa stature de président et de vieux juriste dont on connaît les positions très conservatrices. Il faut dire, avec le magazine L'Économiste maghrébin, qu'après le choc de la mort de Rama, d'aucuns dans les médias, sur les réseaux sociaux et au comptoir des cafés y ont vu la preuve que la société tunisienne est de plus en plus violente, en proie à une dérive criminelle généralisée. La colère populaire gronde, résume L'Économiste, avec des appels à la pendaison de l'assassin présumé qui se multipliait depuis plusieurs jours, mais que le sujet passe des discussions Facebook ou discussions de bistrot à une telle prise de parole présidentielle, c'est ça qui est choquant pour le leader d'opposition tunisien Mohsen Marzouk, cité par Réalité. Il accuse le chef de l'État de s'abaisser aux commentaires de faits divers et à l'étalage d'opinions personnelles indignes d'un président. Il n'y a plus de président à Carthage, le poste est vacant, tranche donc l'opposant Marzouk. Mais pour Chedli Mamogli du site d'info Capitaliste, c'est encore pire que ça. Kaïs Sayed, c'est Robespierre à Carthage, un président en pleine dérive populiste qui balise le terrain à une dictature au nom du peuple. Voilà qui a le mérite en tout cas de confirmer l'analyse de Frida Damani dans Jeune Afrique pour le président tunisien et sa politique aussi intrigante que clivante. Un an après la présidentielle, l'état de grâce semble bel et bien terminé.